plateau de la Nutra. Philippe Millet sur Nutri Radio.
Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour Fabrice, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors pour cet édito de la Nutra, aujourd'hui Philippe, vous avez envie de pousser un coup de gueule.
Oui, j'ai envie de rouspéter, de pousser un coup de gueule, c'est rare chez moi. Mais en fait c'est plus un billet d'humeur que j'ai envie de délivrer plutôt que de bonne humeur.
D'accord, enfin c'est rare, oui. Alors pourquoi Philippe?
C'est rare.
Ceux qui vous connaissent savent. Alors pourquoi?
Pardon.
Pourquoi ce coup de gueule, Philippe?
Bah, tout simplement parce que je viens de voir quelques chiffres qui m'ont littéralement fait froid dans le dos. Ces chiffres sont issus d'une étude récente de décembre 2022 réalisée par l'IFOP pour la Fondation Reboot et la Fondation Jean Jaurès auprès de jeunes Français de 11 à 24 ans. Cette étude, en fait, visait à étudier comment le comportement des jeunes ados vis-à-vis des réseaux sociaux. Et le surtitre de cette étude la résume parfaitement. Génération TikTok, 2 points, génération TokTok. Alors, est-ce que c'est excessif? La réponse est simple, non. Parce que cette étude, elle va montrer quoi? Je vous livre un premier chiffre. Ce premier chiffre, c'est 41% des TikTokers croient en l'idée qu'un créateur de contenu, un influenceur, qui a un nombre important d'abonnés, a tendance à être une source fiable. Là, je vous cite une phrase exacte.
Ah,
autrement dit, pour 4 jeunes sur 10, plus un influenceur est suivi, plus il sera crédible. Une autre chose qui m'a un petit peu énervé, c'est de lire aussi qu'un jeune sur 3 a confiance dans les réseaux sociaux de partage de photos et de vidéos, et en particulier ceux émanant de personnes qui adhèrent à des contre-vérités scientifiques. Et enfin, une dernière donnée, et là, ça fait froid dans le dos, 7 jeunes sur 10 croient à au moins une contre-vérité scientifique. Alors, 2 exemples de contre-vérités scientifiques. La première, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Bon, c'est ce que croient les jeunes. Et il est possible que la Terre soit plate et pas ronde. Là, ça se complique. Et si au début, cela peut prêter à sourire, moi, ça me fait froid dans le dos. D'autant plus que ces jeunes perçoivent beaucoup moins positivement les bienfaits de la science qu'il y a une cinquantaine d'années. À l'inverse des seniors qui, eux, ont une meilleure opinion de cette science.
Non, mais tout le monde sait que la Terre est rectangulaire, Philippe.
Ah, oui, bien sûr, ovale, pourquoi pas.
Alors, est-ce que les jeunes, ils sont les seuls à être livrés aux influenceurs?
Malheureusement, non. Alors, les adultes, bien sûr, mais aussi, je vais prendre une caste, une catégorie socio-professionnelle particulière que je connais relativement bien, ce sont les journalistes. Il y a une société nord-américaine, Cision, qui existe depuis le 19e siècle et qui étudie les logiciels et les services de relations publiques et de médias, etc., qui a mené l'an dernier une étude, une enquête auprès de plus de 1000 journalistes dans le monde entier. Et l'un des points abordés dans cette enquête concernait leurs plus grands défis auxquels ils ont été confrontés en 2022. Et quels sont ces défis, soulignés par ces journalistes professionnels? Eh bien, la lutte contre les fake news est citée par plus de 40% d'entre eux. En deuxième position, c'était le problème de la publicité. Mais surtout, en troisième position, pour 12% des journalistes, ce sont les problèmes des réseaux sociaux et des influenceurs qui court-circuitent les médias traditionnels. Cela rejoint en fait un triste constat fait un petit peu en introduction que je résume là. L'influence n'est pas la vérité. Alors, si j'insiste un peu sur les influenceurs, on sait qu'ils sont issus de la télé-réalité, parfois venus, on ne sait trop d'où, très souvent bronzés, à l'aise. Ils adoptent des codes vestimentaires, des attitudes et le langage de leur cible. Ces influenceurs, on le sait qu'ils ils parlent depuis leur villa de Dubaï, je schématise bien sûr, mais ils sévissent dans tous les domaines. Ils affichent des modes de vie, conseils en tout genre, de la finance aux montres de luxe, en passant, et là c'est beaucoup plus grave, la santé.
La santé et la beauté sont sous influence, Philippe?
Oui, oui, oui. La beauté, tout d'abord. Une étude réalisée en 2020 à l'occasion d'un congrès international de chirurgie et de médecine esthétique a montré que le nombre d'interventions en chirurgie esthétique était plus élevé sur les millennials que sur leurs aînés. Et pire, une étude OpinionWay pour le laboratoire pharmaceutique Allergan a révélé que le quart des jeunes femmes de 18 à 24 ans envisagent déjà à leur âge une intervention sur leur visage. Donc en fait, à l'heure de l'exhibition numérique, les réseaux sociaux chez les jeunes ont imposé de nouveaux codes de beauté et changé leur relation avec leur corps. Si maintenant je parle de la santé, la MIVILUD, vous savez, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a rapporté qu'un quart des dérives sectaires constatées en 2021 ont eu lieu dans le domaine de la santé. Et parmi elles, 70% de ces dérives se rapportent à des pratiques de soins non conventionnels, comme la naturopathie, même si c'est reconnu, le Reiki ou la nouvelle médecine germanique. Et depuis la pandémie, les comptes des naturopathes, hypnotiseurs, ostéopathes, dentistes holistiques, entre guillemets, et je cite, se multiplient sur les réseaux sociaux. En janvier de cette année, la DGCCRF a publié les résultats d'une enquête sur les pratiques commerciales des influenceurs. 60% d'entre eux ne respecteraient pas la réglementation en matière de publicité et de droits des consommateurs. Et parmi les cas les plus graves recensés, et là je cite encore la DGCCRF, la DGCRF met en avant ceux qui concernent la santé des consommateurs.
D'accord. Et alors, comment on peut faire, Philippe, pour s'en protéger de cela ?
Au-delà du rôle des parents, si je parle des adolescents, des enfants et des adolescents, au-delà du rôle des parents contre les influenceurs, contre les fake news, bref, au-delà du rôle de ces parents qui est déguisé le sens critique des enfants, au-delà de l'enseignement, l'éducation nationale, etc. Une chose est intéressante à constater, c'est que les pouvoirs publics commencent à s'engager là-dedans. En ce sens, on ne peut que saluer l'adoption, début février, je crois, par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, d'une proposition de loi qui vise à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et le texte, leur interdit de faire la promotion de produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, etc., etc., à l'exception des cosmétiques.
Alors, et le complément alimentaire, parce que vous n'en avez pas encore parlé.
Les compléments alimentaires ne sont pas concernés par cette interdiction. Cependant, leur promotion doit être, encore une fois, je cite la phrase de ce texte, leur promotion doit être indiquée par un bandeau visible sur l'image ou la vidéo durant l'intégralité de la promotion. Donc la présence, on sait aussi que la présence des marques sur les réseaux sociaux s'appuie souvent sur la participation de personnalités, de créateurs de contenu, de KOL. Ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des apporteurs de science et de connaissances. Et ça, on ne peut que saluer ce développement de ces personnalités. Avec un bémol tout de même, et là c'est vraiment à titre personnel que je m'engage, est-ce qu'il faut choisir comme apporteur de contenu un trentenaire à suite en capuche qui s'agit dans tous les sens ? Je ne le pense pas. Enfin, peut-être pour conclure, reste que pour moi, au-delà des marques, c'est toute la chaîne de valeur de la nutraceutique qui doit davantage s'impliquer dans cet apport de science et de connaissances, ou du moins prendre conscience de ce nécessaire investissement. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. En fait, chacune des marques de faire son choix sans être influencée, à chacun d'entre nous de faire notre propre choix sans être influencé. Et en fait, c'est un éloge à la liberté. Donc.
Très bien. Alors Philippe, quand même... Quand vous parlez de l'influenceur suite à capuche trentenaire, vous préconisez quoi, vous ? Un sexagénaire fringant en pantalon rouge ?
Non, pas spécialement, mais c'est vrai que reprendre tous les codes de la communication envers les jeunes, je sais que sur TikTok, par exemple, j'ai rien contre ce réseau, mais reprendre tous les codes de communication quand on veut parler de science, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre biais de parler de science ou de faire parler pour une marque, de faire parler d'elle ? Ça peut être le développement durable, ça peut être l'humain qui est au centre de la stratégie de la marque. Voilà, sincèrement, ça me hérisse, et quand je discute avec des plus jeunes que moi, malgré tout, merci Fabrice, certains considèrent que oui, prendre les mêmes codes que pour les jeunes, c'est un peu biaisé le discours.
Très bien. Et alors, vous savez qu'on comprend ce coup de gueule. C'est vrai qu'il est nécessaire. C'est bien de pouvoir prendre conscience de tout cela, mais ça va pas vous réconcilier avec Nabila, hein, ça.
Ça va pas être content. Tant pis, Nabila sera fâchée avec moi, mais bon, tant pis, il y aura d'autres KOL peut-être qui viendront me parler.
Merci beaucoup, Philippe Mier. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre numéro de l'édito de la Nutra. Au revoir.
Merci, Philippe. Fabrice. Merci.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
L'édito de la Nutra. Philippe Millet sur Nutri Radio.